attaque, ce qui permettra ensuite de déclencher des sanctions, notamment financières. Nous partons à présent au Pérou, 24 heures seulement après le départ du pape François qui y a passé quelques jours. Le souverain pontife y avait défendu les peuples indigènes et l'Amazonie. Sauf que le Congrès péruvien s'est bien gardé de dire qu'il avait un peu plus tôt promulgué une loi polémique autorisant la construction de routes en Amazonie. La nouvelle n'a été rendue publique qu'hier, après le départ du pape. Voilà qui interroge Eric Sanson.
Les autorités péruviennes ont-elles été hypocrites vis-à-vis du pape François ? Beaucoup se posent la question à Lima. C'est en effet le 15 janvier dernier, trois jours avant l'arrivée du pape, que le Congrès a promulgué discrètement une loi qui déclare prioritaire et d'intérêt national la construction de routes en zone de frontière. Même si le texte précise que ces projets doivent se faire dans le plus grand respect des zones naturelles protégées et des peuples indigènes, cette information aurait sans doute intéressé le pape, qui a très clairement appelé à la protection du poumon de la planète et de ceux qui y habitent. Il l'a dit dans la petite ville de Puerto Maldonado, où le père suisse Xavier Bex a des sentiments mitigés à propos de la route transocéanique construite entre le Pérou et le Brésil.
Et ici aussi, la route interocéanique pourrait tout à fait traverser l'Amazonie si on respectait les règlements et les lois. Comme la règle, c'est de ne pas respecter la loi. La loi, c'est de contourner la loi. C'est évidemment dommageable, j'entends. Moi, je suis très content d'avoir une route. J'ai assez souffert quand il n'y avait pas de route, non, des années et des années dans la boue, quoi. Mais la route, elle nous a amené plus de nuisances que de bienfaits.
Cette loi a été présentée par la majorité fujimoriste au Parlement. Le président de la République n'a présenté aucun veto, partiel ou total, malgré les craintes du ministère de la Culture pour les peuples indigènes. Comme le note l'ONG Survival International, qui défend les tribus en isolement volontaire, les routes permettent souvent l'entrée des colons et le développement de tous les trafics.
Éric Sanson à Quito pour France Culture. Nous revenons en France, où des champs sont inondés, des caves sous la pluie qui tombe encore sur une partie de la France aujourd'hui. 30 départements sont placés en vigilance orange, car une nouvelle perturbation arrive des côtes atlantiques. Des averses ce matin sont prévues des Hauts-de-France jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine. Le soleil devrait briller sur deux larges bandes du sud et de l'est du pays. Les températures assez douces encore, 6 degrés ce matin à Besançon, 8 à Paris, 11 degrés à Rennes, Bordeaux et Montpellier. Et la maximale, elle est toujours à Perpignan avec 15 degrés ce matin.
Merci Clara Lecoq-Réal. Il est 8h15 sur France Culture, vers 8h45 dans le billet culturel de Mathilde Serrel. Il sera question de géopolitique et de musée. Aurélien Bélanger nous livrera sa conclusion définitive sur la télévision. Et puis on va reparler de l'état de nos prisons en compagnie de Jean-Marie Delarue, l'ancien contrôleur général des lieux de privation de liberté, et du chef cuisinier Thierry Marx. Dans quelques instants, le billet politique de Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Guillaume, bonjour
vous
à tous.
Vous aussi, vous allez évoquer les prisons.
Oui, on verra que les ministres de la justice sont souvent assis sur des sièges éjectables.
Dans quelques instants.
Black Studies, cette semaine, dans la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin.
La Fabrique de l'Histoire s'intéresse aux Noirs américains, aux différentes formes culturelles ou politiques, compris leur combat pour la reconnaissance de leur histoire. En conclusion de cette série, nous nous demanderons jeudi comment les Black Studies, comme on les appelle dans les universités américaines, se développent en Europe.
Black Studies, cette semaine à 9h dans la Fabrique de l'Histoire, à retrouver sur franceculture.fr.
8h16.
Les matins de France Culture.
Le billet politique, Ludovic Piétenu. Ludovic, la garde des Sceaux, est-ce le fusible de la République ?
Eh bien, de Badinter à Belloubet, les gardes des Sceaux qui se sont succédés depuis 37 ans, hôtel de Bourvalet, place Vendôme, n'ont jamais eu la tâche facile. Christiane Taubira et Robert Badinter, deux cautions de gauche dans leur gouvernement respectif et vivement critiqués par l'opposition de droite, détiennent paradoxalement les records de longévité à cette fonction. Il n'y a qu'à regarder la frise chronologique des titulaires. Il est très rare, sous la 5e République, de rester plus de 2 ans à ce poste, excepté Jean Foyer sous De Gaulle, René Plévin sous Pompidou, Alain Perfit sous Giscard ou Elisabeth Guigou sous Chirac. Badinter et Taubira, avec 5 années de fonction, sont donc quasiment des exceptions. Et la règle semble immuable, la place presque maudite. Il n'y a qu'à rappeler les 30 et quelques petits jours que François Bayrou y a passé au début de la présidence Macron. Hier, l'ancien Premier ministre Manuel Valls m'expliquait à quel point le poste était difficile. Ce n'est pas un vrai ministère régalien, comme on le dit pourtant, ou comme on l'entend. Pas comme l'intérieur ou la défense. Vous n'avez pas la haute main sur tout, vous êtes surtout constamment rattrapé par la pénitentiaire.
La pénitentiaire, c'est-à-dire ?
Pas loin de 3 milliards d'euros de budget chaque année, environ 40% du budget total du ministère de la Justice. Cette administration représente la troisième force de sécurité intérieure, plus de 39 000 agents, dont 28 000 comme personnel de surveillance dans les prisons. C'est un quart des effectifs de la police nationale et depuis déjà de longues années, des flux de recrutement supérieurs à 2 000 surveillants chaque année, plus de 8 000 agents supplémentaires par exemple depuis 2010. Mais le métier est si difficile qu'il y a constamment du renouvellement et qu'il faut donc en permanence former et recruter. Le ministère de la Justice, longtemps contraint, est l'enfant gâté de tous les budgets depuis 2012, mais cela ne suffit pas. La situation est telle que le besoin d'investissement est énorme et la population carcérale pendant ce temps ne cesse d'augmenter. Nos dirigeants politiques et nos parlementaires accumulent les rapports. Il n'y a qu'à déterrer par exemple le rapport de la commission d'enquête présidée par Jean-Jacques Hyest en 2000, intitulé « Prison, une humiliation pour la République ». Près de 10 ans plus tard, son collègue sénateur Jean-René Le Cerf écrira en 2009, au moment du vote d'un projet de loi pénitentiaire, « Bien des constats dressés dans ce rapport ont conservé toute leur actualité. Pourtant, poursuit-il, paradoxalement, peu d'administrations ont connu, au cours des dernières décennies, des mutations aussi profondes que l'administration pénitentiaire, que l'on songe seulement, dit-il, à la situation des prisons au début des années 70. Alors, les surveillants n'adressaient jamais la parole aux personnes détenues. Les journaux étaient interdits. L'aumônier, l'instituteur et le médecin étaient les seules personnes extérieures à l'administration pénitentiaire à entrer dans cet univers clos. Et ce projet de loi pénitentiaire dont je viens de parler, Guillaume, 2009, est présenté dans ce rapport comme le premier débat au Parlement sous la Ve République, et donc le seul depuis, d'un grand texte fondateur dans ce domaine.
Et depuis, un sujet a rattrapé les dirigeants, la radicalisation.
Oui, dans un contexte d'attentats terroristes, le pays se crispe et nos gouvernants sont tétanisés sur ce sujet. Unité dédiée, quartier d'évaluation, isolement, aucune solution ne semble la bonne pour gérer les détenus radicalisés. Il a bien été créé un service de renseignement pénitentiaire. C'était au printemps dernier, à l'initiative de Christiane Taubira et finalisé sous Jean-Jacques Urvoas, plus de 2 ans donc après les attentats de janvier 2015. Mais ce service et ses 300 agents doivent prendre leur marque et encore s'installer. Selon les chiffres, il y aurait 500 détenus condamnés pour terrorisme islamiste, 800 détenus radicalisés en 2016, 1500 aujourd'hui. La pression monte sur le gouvernement. Pas de fumée sans feu dans les prisons. Le conflit social en cours, 8 jours est en passe de devenir l'un des plus longs de l'histoire récente. Pour avoir des mouvements similaires ou plus forts, il faut remonter à 1988-89 ou en 92 et 94. Autant dire, il y a déjà fort longtemps, la garde des Sceaux Nicole Belloubet est à deux doigts d'entrer dans l'histoire.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu pour ce billet politique.